Mémodio, une mémoire sonore. Relire Françoise Daubonne, un événement organisé par le CRAC Occitanie, le Centre Régional d'Art Contemporain de Sète, en partenariat avec la Nouvelle Librairie Sétoise. Le vendredi 26 mai 2023, au CRAC Occitanie, une table ronde succédait à la performance « Ce qui nous traverse » par la compagnie Noésis. Pour répondre à la question « Pourquoi relire Françoise Daubonne ?» étaient présentes Élise Thiébault, journaliste, autrice de « L'Amazone verte » aux éditions Charleston, Caroline Goldblum, historienne, autrice de « Françoise Daubonne et l'écoféminisme » aux éditions « Le passager clandestin », et Ruth A. Hotel, professeure émérite de français à l'Université de Toledo et traductrice de l'ouvrage « Le féminisme ou la mort » aux éditions Verso Books à New York. La table ronde était animée par Sophie Garayoa de la Nouvelle Librairie Sétoise.
Françoise Daubonne est née en 1920. Elle a été une enfant précoce, autodidacte, femme libre et pleine de paradoxes, résistante, anticolonialiste, poète, activiste, précurseuse dans bien des domaines, assez infréquentable, adepte de l'auto-sabordage, mère que certains diraient indigne, insolente, bravache, bourreau de travail, imprudente, naïve, impulsive, immature, oui, mais surtout... génial. Mesdames, comment avez-vous rencontré, connu Françoise Daubonne ?
Donc, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir que vous êtes si nombreuses, si nombreux. Alors moi, j'ai rencontré Françoise Daubonne en 2007. Alors moi, je voulais travailler, donc je fais une formation d'historienne. J'avais fait une licence, j'avais arrêté, puis j'ai repris, puis je me suis dit, j'ai envie de travailler quand même sur les femmes, sur le féminisme. Je lisais pas mal de choses des années 70, et puis je trouvais que finalement, peu de choses avaient évolué. Et donc j'arrive un jour pour voir celle qui allait devenir ma directrice de recherche, et puis je lui dis, bon, bah, moi je veux travailler sur Simone de Beauvoir. Et puis elle m'a dit, bon, Simone de Beauvoir, tout est fait, passez votre chemin un petit peu. Donc je recherchais un peu, je trouve une revue féministe qui s'appelle Sorcière, et je me trouve que c'est un super support pour travailler. C'est assez facile, il y a 24 numéros, c'est pas trop de travail. Et puis donc je fais ce travail sur Sorcière, et ça se passe très bien, ça me passionne, et dedans je découvre un texte de Françoise Daubonne. Un très beau texte qui parlait de la mort d'Ulrich Meinhof, hein, Ulrich Meinhof de la fraction Armée Rouge. Et donc à la fin de ma première année de master, je décide de continuer, et je me dis, très bien, je vais faire la biographie de Françoise Daubonne. Donc un peu comme vous, j'arrive en me disant, c'est bon, un an, je vais faire la biographie. Et donc j'arrive à l'IMEC, et en fait je me suis très vite rendu compte. Donc à l'époque, il y a des travaux sur Françoise Daubonne, il n'y en avait pas du tout. Personne n'avait consulté le fonds qui existait à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et puis je me rends compte, au début sur Wikipédia il y avait quelques lignes quand même, et puis il était marqué 40 livres publiés. Bon, déjà je trouvais que c'était pas mal, et en fait très vite au fil des semaines je me rends compte que c'est pas 40 mais 50, 60, enfin bref, moi j'en ai trouvé 100 livres publiés de Françoise Daubonne. Moi la première année, enfin en master, j'ai donc défriché un petit peu le fond, donc en découvrant un petit peu les journaux intimes, et puis en fait je me rends compte que ça couvre toute la période, donc les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la période littéraire de la deuxième moitié du XXe siècle, donc toute la période communiste aussi, parce qu'elle est très engagée au sein du Parti communiste pendant une dizaine d'années. Donc en fait il faut aussi voir un peu tout ce que les autres ont fait, enfin bref, c'est un travail que j'ai toujours pas terminé. Donc voilà, ça fait 15 ans que je suis dedans et que je continue un petit peu. Donc voilà un petit peu pour la rencontre avec Françoise, et je vais laisser Élise raconter la sienne.
Moi aussi je suis très heureuse d'être ici et de vous voir si nombreuses et nombreux. C'était un peu improbable, hein, parce que Caroline encore plus, quand elle a commencé à travailler sur Françoise Daubonne, franchement elle était très inconnue au bataillon. Moi-même, quand j'y suis venue, c'était effectivement quelqu'un de pas très connue. Alors comment elle est entrée dans ma vie ? Maintenant, je peux le dire, parce qu'au début, je n'osais pas le dire, mais en vrai, j'ai fait un rêve. ça paraît très perché, mais j'ai fait un rêve où j'ai rencontré Françoise Daubonne et où elle m'ordonnait d'écrire sa biographie. Je sais que c'est bizarre. Moi-même, je n'ai aucune capacité médiumnique, mais elle, probablement, en avait tellement que jusque dans la mort, elle a été capable d'imposer ou de proposer, parce que bon, évidemment, mais c'était quand même un peu une... je m'en rappelle très bien, c'était l'été 2019. Alors peut-être que ça coïncide avec le fait qu'il y a eu un grand article dans Libération sur elle, une pleine page. Et j'ai une amie qui est la journaliste Marie Barbier, qui a cofondé la revue La Déferlante, qui avait fait un tweet. C'est un truc bizarre, hein, mais bon, c'est pour montrer comment les choses forment des fils d'Ariane. Elle avait fait un tweet en disant « C'est bizarre, est-ce qu'il y a une biographie de Françoise Daubonne ?» Et sous l'emprise de ce rêve, je dis publiquement « C'est mon rêve d'écrire sa biographie et je vais le faire. » J'avais pas l'once de rien de... Bon, il se trouve que Françoise Daubonne était présente dans les bibliothèques, moi aussi, comme pour vous, de mon père et de ma mère. Pas pour les mêmes livres. Ma mère avait particulièrement lu ses biographies et le texte « Les femmes avant le patriarcat ». Donc ma mère aimait beaucoup parler à table du fait que le patriarcat n'avait pas toujours existé, que c'était donc une bonne nouvelle. Cela signifiait qu'il n'existerait pas toujours, sous l'œil effaré des hommes de la famille, qui pensaient que vraiment elle était bien perchée. Et puis les biographies Isabelle Eberhardt, la reine Christine, etc. Mon père, lui, était amateur de science-fiction et il était lecteur des livres. Mais alors, les livres de science-fiction, pas la grande saga des Bergères de l'Apocalypse qui vient d'être rééditée à l'Espace des Femmes et qui est une grande trilogie. Non, c'est les romans. Elle a écrit beaucoup de romans de série B, en fait, qui se dévorent, comme elle a écrit aussi des livres dans la Bibliothèque Verte, des romans policiers. Toujours de la littérature populaire. Alors elle disait que c'était pour gagner sa vie et pour nourrir ses enfants, ce qui est partiellement vrai, mais je pense qu'il y avait aussi une dimension de propagande. elle voulait toucher un grand nombre de personnes à travers des fictions faciles d'accès, et elle a toujours beaucoup fait ça, comme elle faisait beaucoup de conférences, elle allait à la rencontre des gens, et en fait elle a semé un nombre de graines incroyables chez un nombre incroyable de personnes. Ce sont des graines à progression lente qui ont pris racine, et c'est seulement maintenant qu'on voit la magnifique jungle qu'elle a créée, la très belle forêt, les très beaux fruits que ça donne. C'est seulement maintenant, et je pense que c'est parce que c'est mûr, parce que ça rencontre, comme vous le montrez dans ce spectacle magnifique, les luttes contemporaines, que tout est en train d'éclore, voire d'exploser. Et voilà comment elle est arrivée dans ma vie et par voie de conséquence, la vôtre. Voilà.
Oui, bonsoir et merci aussi à vous d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Et merci pour ce beau spectacle. C'était encore plus touchant qu'à Caen. Ce qui est vraiment étonnant parce que déjà à Caen, je crois que nous aurons beaucoup de plaisir à continuer à vous suivre. Ceci dit, moi je ne suis pas du tout spécialiste d'écologie, de sciences, tout. Moi je suis professeur émérite maintenant de français, spécialisé en cinéma. Ceux qui habitent Sète, ça va vous intéresser. Agnès Varda, c'est sur le travail d'Agnès Varda que je travaille le plus et que j'étudie. Et là, par contre, aux États-Unis, Françoise Daubonne a été reçue, aimée, appréciée énormément dans les années 70 et 80. Et son fils Vincent et son fils adoptif Alain, ils ont plein d'histoires que Françoise a raconté quand elle est venue, quand elle est allée aux États-Unis, que à Minnesota et puis au Canada, qu'elle comprenait pas, enfin elle parlait pas vraiment français. Et moi, de ma part, anglais, pardon. Oui, très bien d'ailleurs. Et donc, moi, spécialiste de littérature, cinéma et culture française, malheureusement, je n'avais pas tellement croisé jusqu'au moment où j'ai rencontré une grande scientifique aux États-Unis, Caroline Merchant, qui a écrit La mort de la nature, qui est en vente aussi à la Nouvelle Librairie Sétoise. C'est une très grande professeure, très connue aux États-Unis, à Berkeley, spécialiste d'environnement et d'écologie. Je l'ai rencontrée dans un colloque de narratif littéraire, hein, franchement, mais où elle était, où elle a présenté le discours principal. Et j'étais à peu près la seule prof de français, donc elle n'avait pas beaucoup de choix pour une traductrice. Et elle m'avait proposé de traduire le chapitre principal, le chapitre qui fait vraiment, qui l'a fait connaître, où elle expose l'écoféminisme, où elle le dit pour la première fois, où elle dit aussi patriarcat, etc. Et donc j'ai traduit ça dans les années 90. Après, Caroline Merchant m'a demandé de... Alors moi, j'ai eu le privilège de la connaître en vrai. Je l'ai vue en 95. J'ai pris une photo pour Caroline, qu'elle a continué à... Pas Caroline Goldblum, mais Caroline Merchant, qu'elle continue à montrer aussi dans les colloques. Et ben voilà, donc il s'agit... Enfin, il s'avère que cette traduction est là où je suis peut-être la plus citée. Plus que les articles sur Varda ou sur la culture ou Claire Denis, etc. C'est surtout sur Françoise Daubonne. Et après, bon, à peu près une vingtaine d'années après, Caroline commence à m'écrire pour me dire... Ah ben merci beaucoup, là, vous avez contribué à la connaissance de Françoise Daubonne encore aux États-Unis, et elle continue à être très importante, et avec les histoires d'aujourd'hui, de climat, etc., elle est encore plus importante. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de traduire le livre en entier? Alors déjà le chapitre, parce qu'elle a, si vous avez lu, elle a un style très intéressant et très personnel et assez difficile à traduire. Donc, je ne suis pas traductrice du tout, mais là, d'entrer dans la peau de Françoise Daubonne, ça m'a beaucoup inspirée, etc. Et j'ai passé, donc j'ai finalement accepté quand j'ai eu plus de temps. Et donc j'ai passé la plupart de mon temps pendant le confinement avec Françoise. Donc malheureusement, on n'a pas. J'ai la photo que je peux vous montrer de la traduction. Ah oui, et une petite histoire. Donc Caroline Merchant m'a écrit pendant que j'étais en train de terminer pour me dire ah, on a une maison d'édition. Et on a parmi les meilleures maisons d'édition de gauche aux États-Unis, qui avant à un point qui s'appelait New Left Books, avant, maintenant c'est Verso Books. Donc on est vraiment ravis plus que ça pour d'avoir cette traduction publiée.
Élise, tu as commencé à répondre à ma question suivante. Françoise Daubonne a d'abord été et a été jusqu'au bout une écrivaine. Les filles l'ont dit, pas un jour sans écrire. Elle a été même une star des lettres françaises pendant un temps assez court, mais elle a été extrêmement connue. Est-ce que tu peux nous brosser le portrait de l'écrivaine qu'elle a été, donc les livres qu'elle a écrits en son nom et les livres qu'elle a effectivement écrits sous d'autres noms?
Françoise Daubonne, en fait, c'est d'abord une enfant prodige. Donc, les premiers textes qu'elle écrit, elle a moins de 10 ans. Ce sont des contes dans lesquels il y a une reine de l'Europe qui fait l'égalité des peuples, par exemple. Ça, c'est un de ses premiers textes Bon, il y a l'engagement féministe à 9 ans. Hein, elle écrit sur le parvis de son école « Je suis féministe ». Elle écrit des tracts qu'elle distribue à vélo dans son village, dans les boîtes aux lettres, des tracts féministes. Et puis, il y a sa première œuvre. Elle répond à un concours organisé par De Noël Gontier, un concours de littérature enfantine pour les moins de 13 ans. Le minimum exigé était de 200 lignes. Ils n'ont pas eu l'idée de demander un maximum. Elle a écrit 200 pages d'un roman qui s'appelle... Elle avait 12 ans, donc à l'époque, qui s'appelle « Mireille, fille des montagnes ». Et elle entre en littérature comme ça. Elle est remarquée déjà à l'époque par Colette. Puis elle va publier plus tard... après ce premier roman, un recueil de poèmes, Les colonnes de l'âme, puis une biographie, Le cœur de Watteau, en 1944, hein, c'est ça, il paraît, déjà chez Julliard. Et elle devient ce prodige des lettres, c'est vraiment, elle est conçue comme telle, elle est connue et perçue comme telle, comme une espèce de prodige qui écrit de façon géniale, incroyable, avec une rapidité. Je veux dire, le roman était tellement abouti, Mireille, fille des montagnes, et parlait d'histoires d'amour, avec même des présupposés érotiques qui avaient fait que les gens de la maison d'édition avaient fait une enquête et avaient demandé au curé de la paroisse si vraiment elle avait 12 ans, parce que tout le monde pensait que tout ça était faux. Or, tout en étant parfaitement innocente, comme elle le dira plus tard dans ses mémoires, oui, elle était en transe permanente. Écrire 100 pages par jour, comme elle le faisait dans les bons moments, ça suppose qu'en réalité, on canalise quelque chose qu'on reçoit. Donc elle était dans un état second comme ça, ce qui fait qu'en 1947, elle va publier un grand roman d'aventure qui s'appelle « Comme un vol de Gerfaut », qui fait 670 pages, un truc absolument énorme, et qui est un best-seller. Voilà. Et elle figure parmi... Je crois qu'elle est la seule autrice, on ne disait évidemment pas du tout ça à l'époque, qui est photographiée avec les auteurs Julliard. Et évidemment, elle va dilapider l'argent qu'elle gagne en l'offrant, en le distribuant, etc. Parce qu'elle va commencer une vie totalement dédiée à l'engagement politique et à la littérature. Et une chose particulière qu'on peut dire, elle va publier donc ses romans, puis elle va changer de style, écrire des romans plus personnels, dont un au titre incroyable, « Je voulais être une femme ». Elle écrit ce livre en 1962. Elle est reçue par Pierre Dumayet à la télé, qui se demande ce que c'est « Je voulais être une femme », c'est-à-dire. Il est là et lui dit « Mais... c'est-à-dire, maintenant vous voulez bien ?» Enfin, il est totalement perdu. Et elle a une façon de présenter et de penser les choses qui est extraordinairement en avance, hein, d'interroger l'être femme comme elle le fait, ne serait-ce que dans le titre, est incroyable. Elle écrit son premier essai en 1949, après avoir rencontré Simone de Beauvoir, quand elle découvre le deuxième sexe. En 1949, elle écrit à Simone de Beauvoir « Vous êtes un génie, vous nous avez toutes vengées ». Elle écrira dans son journal que, en fait, Simone de Beauvoir lui a un peu grillé la politesse, parce qu'elle était elle-même en train d'écrire le livre l'essai majeur, hein, sur l'histoire des femmes. Mais bon, elle a quand même enquillé derrière avec son premier essai féministe qui s'appelle « Le complexe de Diane » qui paraît en 1951. Le complexe de Diane, je vais aller vite parce que c'est intéressant de se rappeler ça. C'était le nom qu'on donnait à une supposée maladie des femmes qui se révoltaient contre l'injustice de leurs conditions. Hein, on considérait que c'était un défaut d'adaptation et les psychanalystes appelaient ça le complexe de Diane, évidemment suivant la déesse Diane, et, ou complexe de protestation virile. C'était une maladie. Voilà. Elle était manifestement très contagieuse, à incubation lente, hein, puisque là, nous sommes nombreuses et même nombreux à être touchées. Voilà. Elle a elle a en même temps jamais satisfait à l'idée de faire une carrière littéraire.
L'idée de carrière lui était complètement étrangère. Elle a, d'ailleurs, je pense, tout fait pour... on a l'impression qu'elle a un peu tout fait
alors,
pour ne pas réussir
sa
carrière.
Ça rejoint cette idée d'auto-sabotage que tu évoquais tout à l'heure. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est la Diogène du féminisme. Voilà. Elle vit dans son tonneau. Elle donne les réponses essentielles que personne ne comprend. Et quand on se met entre elle et son soleil, elle n'est pas très contente.
Quelle féministe elle a été ? Alors, avant sa découverte avec les enjeux écologiques, on peut dire, dans le paysage français de l'époque, quelle lutte a-t-elle menée, dans quel cadre, avant sa révélation avec René Dumont ? Est-ce que Caroline...
Oui, alors Françoise Daubonne, donc elle s'engage très très vite. Alors on a évoqué peut-être tout à l'heure la résistance. C'est vrai, mais enfin moi je suis toujours un peu gênée pour en parler parce que j'ai trouvé très peu de choses dans les archives. Voilà, en tant qu'historienne, moi je passe assez vite là-dessus. C'est vrai qu'il y a, il y a eu des choses, mais enfin voilà, je développe pas plus. Par contre, elle va tout de suite s'engager après la guerre au sein du Parti communiste, où elle va militer, elle va être vraiment une très grande militante communiste pendant quelques années. Hein. Voilà, elle participe aux réunions de cellules, elle fait les tracts, elle fait partie d'une cellule parisienne assez connue, hein, dans laquelle il y a quelques personnalités, comme Jeanne Modigliani, son nom m'échappe, mais elle est introduite par le sociologue Henri Lefebvre. On voit dans son journal, enfin il y a un journal qui est conservé sur les années 51-53 où on voit vraiment que, enfin voilà, elle vit au rythme de sa cellule un petit peu. Hein, un moment, elle marque qu'elle est extrêmement contrariée parce qu'elle est elle est rarement malade, hein, Françoise Daubonne, mais là elle est malade et c'est la fête de l'humanité et elle peut pas y aller, donc c'est vraiment elle enrage. Et enfin, voilà, elle distribue sinon les tracts à la sortie du métro. Donc voilà, ça c'est pour toute la période communiste qui va définitivement s'achever en 56. Après, elle va s'engager pour une multitude d'engagements, hein, Françoise Daubonne, dans les années 50, 60, 70. Elle va participer au Radio Libre, elle va militer contre la psychiatrie, les prisons, pour Françoise Daubonne, le nucléaire, bien sûr. Tout ce qui est moi quand j'ai consulté aussi les archives, le fonds d'archives qui est très conséquent à l'IMEC, il y a aussi des heures et des heures d'enregistrement radio parce que donc elle s'est vraiment battue pour les radios libres, donc j'ai écouté toutes ces émissions la nuit parce qu'elle ne dort pas non plus, Françoise Daubonne, hein, enfin voilà, faut bien se imaginer que quand on écrit 100 pages par jour, qu'on enregistre des émissions de radio la nuit, elle dort très très peu, donc enfin voilà, elle a participé de manière incroyable à mai 68 où là elle a pas dormi du tout ce mois-là, je pense, parce que elle trouve encore le moyen d'écrire dans son journal intime, mais enfin voilà, il y a pas de transport, donc elle marche à travers toute la ville, elle participe à des assemblées générales à l'Odéon, etc. Françoise Daubonne, en fait, on peut considérer qu'elle a été un peu de toutes les militances de la seconde moitié du XXe siècle en France, quoi.
Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la manière dont, tout en étant dans le communiste, donc qui était vraiment la pensée politique hégémonique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est étrange, c'est qu'elle a quitté le Parti communiste, pas tellement pas sur la Hongrie, pas sur la Tchécoslovaquie, elle a quitté le Parti communiste pour un désaccord, c'est ce qu'elle dit en tout cas dans son livre dans Contre-violence ou la résistance à l'État. Un désaccord avec le Parti communiste qu'elle croyait, qu'elle jugeait insuffisamment engagé contre la guerre d'Algérie. Et elle dit même qu'elle a rejoint, alors là aussi on n'a pas beaucoup d'éléments pour le vérifier historiquement, mais elle affirme avoir rejoint les réseaux clandestins du FLN à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui a, dans sa vie politique, choisi les courants radicaux. Ne reculons pas devant la violence, c'est grâce à toi que l'on sait, Caroline, parce que bon, elle va pas le dire, mais enfin, c'est elle qui a quand même établi que Françoise Daubonne en 1975 a fait un attentat à la centrale nucléaire alors en construction de Fessenheim, et c'est un parmi d'autres attentats qu'elle a commis dans cette période-là avec l'amour de sa vie de l'époque, Gérard Hoff, qui était lui militant anti-psychiatrie. Donc il y a cette dimension-là, et puis il y a la dimension très importante au sein du MLF, comme pionnière du MLF, menant des actions pour interrompre, par exemple, un colloque d'anti-IVG, c'était Lefebvre, dont c'était Jérôme Lejeune, qui faisait donc une conférence laisser les vivre contre l'IVG, et c'est là qu'elle a organisé
des scènes quand même absolument incroyables de ta biographie. Enfin, c'est il y en a un certain nombre.
Le commando,
mais le commando, c'est assez avec un parapluie.
Alors elle a choisi le parapluie après avoir convaincu tout le monde, parce que l'idée c'est qu'elle craignait de trouver la police et les membres d'ordre nouveau qui les auraient fouillés en pressentant qu'il y aurait de la bagarre, ce qui effectivement s'est produit. Et pour pas être arrêtée, elle a cette idée géniale, elle dit prenons un saucisson sec, c'est aussi dur qu'une matraque, mais on peut pas qualifier ça d'arme. Voilà, donc on ne peut pas nous interdire d'entrer avec un saucisson, on n'a qu'à dire qu'on a acheté du saucisson parce qu'on veut manger après ça. Bon. Et elle réussit à convaincre tout le monde. Les gens trouvent ça un peu bizarre, mais elle réussit à les convaincre tous. Elle hésitait, elle ne savait pas s'il fallait venir un peu à pluie, puis elle s'est dit ça sera plus crème, il pleuvait effectivement, c'était en hiver. Et elle est venue avec un parapluie. Effectivement, il y a eu une bagarre générale où tout le monde dit, mais notamment un des militants passait son temps à crier « On m'a pris mon saucisson !» Voilà, c'est du Françoise Daubonne pur jus. Et on n'a pas mentionné, évidemment, ou pas suffisamment, le fait qu'elle ait été cofondatrice du Front homosexuel d'Action révolutionnaire.
Question sur son apport sur le rassemblement des luttes sexisme et homophobie. Je pense qu'elle a vraiment marqué un pas
Et puis même une critique à l'époque, ça va plus loin qu'une critique du patriarcat. On peut dire que au sein du MLF, elles étaient plus ou moins d'accord pour mettre en cause le patriarcat, mais la critique systémique de l'hétérosexualité, il n'y en avait pas beaucoup qui la formulaient, de la même manière que la critique d'une forme de la façon dont on pouvait vivre autrement sa maternité n'était pas non plus tellement évidente. On avait la vision de Simone de Beauvoir qui dit « Bon, la maternité, c'est une aliénation, ne faisons donc pas d'enfants. » Bon. Et elle disait « Oui, mais en fait, de fait, on fait des enfants. » Elle-même en a fait plein. Elle a vécu toute sa vie, une grande partie de sa vie sexuelle, et pas la meilleure, mais sans accès à la contraception. Voilà. Et donc, elle a dû inventer la forme de maternité qui allait avec son idéal de liberté. Et c'est extraordinaire. Et elle a été jusqu'à créer, et ce qui n'est pas sans lien avec le reste de son engagement écologiste, de lancer une grève des ventres dans Charlie Hebdo en 1974 aussi, hein, je pense, où elle invitait les femmes à faire la grève des ventres, à une période où les décrets sur la contraception et l'IVG, où la contraception était encore un peu inaccessible, difficile d'accès, et l'IVG pas tout à fait accessible non plus, ça supposait une grève du sexe en fait, ou du sexe pénétratif. Et dans son cas, comme elle était déjà ménopausée, c'était pas un gros sacrifice. Donc, mais voilà, ce genre de lutte, cette façon de lutter est totalement novatrice pour l'époque. Et c'est extraordinaire à quel point ça rentre en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est spectaculaire. Mais peut-être tu peux ajouter quelque chose, toi, pour ça.
Justement, j'étais en train de penser, comme je connais surtout le féminisme ou la mort. Il y a des chapitres où elle parle beaucoup des femmes à travers le monde et la situation pour les femmes dans le monde de partout. Et elle parle aussi de ses problèmes avec le Parti communiste, en justement disant aussi qu'il ne s'intéressait pas assez à la situation des homosexuels. Et que c'était... Et des femmes, pardon. Oui, elle a dit que c'était justement encore un système de pouvoir et du patriarcat. Et quand les gens qui ne connaissent pas l'écologie ou l'écoféminisme, etc., ils me demandent de quoi il s'agit, moi j'ai dit que justement, c'est ce que vous avez, des textes que vous avez choisis qui sont très importants, c'est pas de prendre le pouvoir des hommes, c'est pas de l'inverse, de mettre à l'envers et de les femmes au pouvoir, c'est d'exploser le pouvoir. Et donc, moi, étudiante de culture française et littérature, justement, ce livre même est très littéraire. Elle connaît la littérature mondiale et elle prend souvent des exemples dans la littérature. Et la culture aussi, on apprend beaucoup de choses au sujet du mouvement des femmes, des assemblées des femmes, des ministres et des députés qui étaient laissés les vivre, etc. Donc j'ai dû... Et là, de pouvoir faire de la recherche maintenant, en 2020, 2021 et 2022, c'était complètement différent de 94, quand j'avais du mal pour faire autant de recherches, et j'ai trouvé des... pas des erreurs, mais des choses à ajouter dans le chapitre que j'avais déjà traduit. Donc, voilà.
On sait que Françoise Daubonne a été une sorte d'électron libre, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment réussi à fédérer autour d'elle suffisamment d'hommes ou de femmes. C'est un aspect important de sa personnalité. Est-ce que vous pouvez nous parler de la femme qu'elle était, ce qui explique aussi sans doute pourquoi, dans les années 80, on l'a oubliée. À un moment donné, elle était dérangeante.
Bon, elle avait un énorme défaut, c'est qu'elle était née avec un vagin, donc ça aidait pas du tout à être reconnue, entendue, pas traitée de folle. Voilà. Bon, c'est pas pour rien hein, que son premier essai féministe porte le nom d'une pathologisation de la lutte. Aujourd'hui, on nous parlerait d'éco-anxiété expliquer le sentiment de colère et d'injustice qui nous habite face à ce qui est en train de se passer. Il y a plein de raisons pour lesquelles elle a pu être oubliée, mise de côté, même les féministes ou des féministes un peu connues, dont je vais cacher le nom, disaient, ah oui, Françoise, tout le monde me disait, bah, en fait, plein de féministes, moi, m'ont dit, ce qui explique peut-être ce rêve bizarre que j'ai fait, après que j'ai publié un livre sur les règles, me disait, il faut absolument que tu fasses quelque chose sur Françoise Daubonne, toi évidemment, avec Françoise Daubonne et l'écoféminisme. Et je me disais, pourquoi il me parle tout le temps de ça? Et en même temps, il y avait ce côté, Françoise Daubonne, oui, elle était quand même un peu cinglée, elle disait un peu n'importe quoi, elle était sans filtre, on dirait aujourd'hui. Il y avait aussi le fait qu'elle n'était pas une universitaire. En cela, c'est vraiment une écoféministe totale, puisque l'écoféminisme, justement, essaye de penser au-delà des académismes et de l'université. Donc elle n'était pas une universitaire. Elle n'était pas adossée à un homme. Ça a aussi son impact pour la période où elle a vécu. Elle faisait pas du tout dans la dentelle et elle n'était pas très douée dans les relations humaines. Mais moi, je suis absolument persuadée qu'elle serait née avec un pénis, elle aurait créé un mouvement mondial et il y aurait eu probablement plusieurs épouses qui auraient fait en sorte de traduire sur le moment sa pensée, d'organiser socialement sa vie pour qu'elle soit meilleure, de lui laver ses chaussettes et ses chemises, parce que bon, côté hygiène, elle y passait pas beaucoup de temps. C'est une chose que j'ai dite une fois à mon frère qui me disait, mais je comprends pas pourquoi t'as pas fait une meilleure carrière, j'avais 40 ans par rapport à lui qui avait 3 ans de moins et qui réussissait mieux dans le travail. Je dis, écoute, je pense que la différence entre toi et moi, c'est que je n'ai pas une femme à la maison. Voilà, ça aide pas quand on a des enfants. Et elle a eu, voilà, il a manqué une femme à la maison. Elle a trop tardivement rencontré des hommes extraordinaires avec qui elle a découvert l'amour. La première partie de sa vie affective est terrible et souvent les gens me disent « Ah, mais oh, c'est affreux !» Alors qu'elle était féministe, elle a été sous la domination des hommes. S'il te plaît, quoi. Ça s'appelle, c'est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la terre qu'on foule, le patriarcat. Donc voilà, les hommes déconstruits, c'est pas trop à la mode hein, dans les années 50, on va dire. Mais par contre, elle a quand même compris qu'il y avait un vivier chez les homosexuels de type bien. Et elle a découvert l'amour et à l'IMEC, cet endroit merveilleux où on est allé lire tous et toutes avec un sentiment de vertige ces textes intimes. Moi, j'étais très touchée de découvrir dans les journaux où elle avait 60 ans l'extraordinaire fertilité et joie de sa vie sexuelle qui contraste énormément avec la mienne au même âge. Et je me disais... C'est bien qu'elle ait vécu ça. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle n'ait pas été une institution de son vivant a permis de garder une pensée vivante, une liberté totale et finalement de garder son génie dans son état natif. Et c'est ça qui nous est offert aujourd'hui.
Oui, je vais rajouter un petit mot sur le déficit de postérité de Françoise Aubonne, parce que c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé à travailler sur elle. Enfin, au début, je savais pas que j'allais tomber autour de Richesse, mais pendant un moment, moi, j'étais toute seule à travailler sur Françoise Aubonne. Et je me disais pas du tout que vous seriez là aujourd'hui et que je serais encore moins que je serais là à vous en parler. Enfin, c'était pas, on était avant la dernière vague féministe assez importante. Donc j'étais dans mon coin à bosser sur Aubonne pour vous dire à quel point quand j'ai demandé un financement de thèse, ils avaient inversé mon nom et celui d'Aubonne pour le financement. Enfin, voilà, moi, on m'a dit sur qui vous travaillez. Enfin, voilà. Mais je sais que les premières fois où, dans le cadre de la thèse, j'allais présenter dans des universités le travail que je faisais, personne n'avait entendu parler. Enfin, c'était vraiment très très rare quand on me disait oui, j'ai déjà entendu ou j'ai vu un livre de Françoise Aubonne. Enfin, personne ne la connaissait, ni les universitaires, ni personne. Et bon, ça commençait à venir. Et moi, je réfléchissais à ce. Je voyais bien dans mon coin le décalage qu'il pouvait y avoir entre tout ce qu'elle avait quand même pu faire et le fait qu'on la connaisse pas du tout. Donc, je m'étais posé la question de la postérité. Et moi, enfin voilà, j'avais lancé aussi des pistes comme ça de recherche en me disant c'est vrai que le fait qu'elle se soit brouillée avec la plupart de ses éditeurs, enfin voilà, même si elle a publié énormément. Oui, Julliard, ce salaud. Il y a 40 maisons d'édition différentes qui ont publié Françoise Aubonne. Je me suis dit, quand même, c'est bien, mais c'est beaucoup. Et je me demandais pourquoi, mais en fait, et ça a dû aussi contribuer au fait qu'elle n'ait pas été plus connue, forcément, si ses éditeurs, une fois qu'il avait publié et qu'il s'était brouillé avec, ils avaient pu forcément vendre et promouvoir ses livres. Même ses amis, même toutes ses, enfin, se brouiller quand même avec la majorité des gens qu'elle rencontrait, elle en rencontrait beaucoup. Et donc même dans des cercles militants au début, enfin moi je suis allée à Paris, dans des réunions féministes pour essayer de dire s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui connaît Françoise Aubonne pour m'en parler, parce que personne voulait m'en parler. Enfin, ou quand on m'en parlait, c'était vraiment, enfin fallait, on m'a dit des choses abominables sur elle. J'étais là, ok, mais j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je ne l'ai pas connue. J'ai commencé en 2007, elle était morte en 2005. Et voilà, donc j'ai eu du mal à avoir accès à des témoignages. C'était assez rare. Et donc, même dans les cercles militants féministes, on n'en parlait pas. On ne voulait pas trop en parler. Et je pense que c'est lié au fait qu'elle se brouillait et que c'était ressortir des choses que les gens n'avaient pas forcément envie d'entendre. Et aussi le fait que quand même elle s'est intéressée à toutes les luttes, donc toutes les luttes ne font qu'une, mais ça a pu aussi un petit peu brouiller le message. Moi, quand je commençais à travailler sur elle, les seuls qui la connaissaient un petit peu, c'était dans le mouvement homosexuel. C'était tout ce qu'elle avait fait au sein du Front homosexuel d'action révolutionnaire, où elle était un petit peu citée de temps en temps dans certains manuels. Et moi, je me disais que c'était ça qui allait rester. Et à l'époque, quand je commençais à travailler, je me disais pas du tout que l'écoféminisme, ce serait le grand truc de Françoise Aubonne. C'est pourquoi on m'appelle, depuis que j'ai arrêté ma thèse, en fait, on m'appelle assez régulièrement. C'était pas la bonne période non plus pour moi. J'aurais été financée, mais bon, c'est pas. Voilà. Et j'avais. Non, moi, c'est tout. J'arrête là-dessus. Ouais, le côté radical
Je voulais ajouter quelque chose sur la notion de postérité. J'étais très touchée par la partie du spectacle où vous évoquez ce texte, enfin vous lisez ce texte où elle parle de la petite fille de Marc. Marc Payen a été son premier amour heureux. Elle avait déjà quasiment 50 ans, un peu plus de 50 ans même, je crois, quand elle rencontre Marc Payen, qui était donc un jeune militant du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, avec qui elle est allée faire le coup de poing dans un colloque en Italie sur l'homosexualité, un colloque psychiatrique sur l'homosexualité. Et ils ont annulé le colloque, ils ont réussi à annuler le colloque. Et effectivement, Marc Payen, il a eu plus tard une fille, et qui s'appelle Magali Payen, qui a créé, qui est très engagée dans le mouvement écolo et qui a créé notamment le mouvement On est prêt. Je vous invite à aller regarder ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se construire, de refuser justement toute forme de fatalisme ou d'éco-anxiété pour véritablement faire une alternative écolo face à l'urgence climatique. Et elle l'avait anticipé, c'est ça qui est extraordinaire. Elle l'écrit en toutes lettres, à l'époque où Marc Payen n'a pas d'enfant. Voilà, c'est fou. Effectivement, Magali Payen, c'est une des figures essentielles aujourd'hui du mouvement politique contre... voilà.
Donc on te croit quand tu dis qu'elle a parlé dans tes rêves.
Oui,
c'est une façon de...
Mais c'est parce que je suis née le même jour qu'elle, hein, 12 mars, pas la même année.
Mémodio, une mémoire sonore.
En 73, c'est ça, René Dumont se présente...
74.
Aux élections présidentielles, et là ça va être la révélation un petit peu, hein. C'est le moment où l'ensemble de ses engagements vont converger vers ce qui lui paraît être la lutte la plus majeure à mener, celle de sauver le vivant. Alors on dit vivant aujourd'hui, on ne disait pas ça je pense à l'époque, la planète. Donc je vais poser la question, qu'est-ce que l'écoféminisme?
Alors, la meilleure définition, elle a été donnée dans le spectacle. Hein. Donc, merci. Encore une fois, en dehors de l'émotion magnifique, il y a une dimension quand même pédagogique sur la pensée de Françoise Daubonne et l'écoféminisme. Bon, ce que je pense que c'est toi qui devrais faire cette définition, parce que tu as traduit ce chapitre que tu connais dans son intimité. Et j'aimerais bien... si tu veux bien, après, c'est pas pour me défiler, hein, mais c'est pour...
Je vais te passer le micro après. C'est-à-dire que pour moi, c'est un mélange d'écologie et de féminisme. Donc, c'est-à-dire que le patriarcat, le pouvoir et le capitalisme, comme vous avez dit, menés par les hommes, je ne sais pas à qui je disais ça l'autre jour, c'est justement que tout est au profit. Et que tant qu'on laissait faire les hommes, on allait rester uniquement avec le profit. Et comme vous avez dit, que les fermiers, etc., que si dans le nom de d'agriculture, si on laisse les pesticides, etc., qu'on court vers la fin de l'être humain, quoi. Et que justement, si on laisse le pouvoir aux hommes, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas reprendre le pouvoir par les femmes, parce que justement, on risque, dès qu'il y a quelqu'un, nous savons tous, n'est-ce pas, dès qu'il y a quelqu'un qui mène quelque chose, ils vont devenir égoïstes, et égoïstement, ils vont oublier les autres. Or, dans ce fameux chapitre, Françoise Daubonne explique que le monde, donc, mené par le capitalisme, le runaway capitalisme, comme on dit en anglais, le monde mené par ces gens-là, surtout des hommes, si c'est les femmes qui le reprennent, ça va être pareil. Donc, il faut, comme on a dit, exploser le pouvoir entièrement. Et elle a dit qu'avec le monde... aujourd'hui, on commence à dire que, ouais, est-ce que c'est vraiment un problème de surpopulation ou pas? Et là, pour elle, tout est centré sur la surpopulation. Et que ce sont les femmes et, ça c'est un truc qu'on n'a pas encore dit, les enfants. Ça c'est dans ce fameux chapitre aussi. Ce sont les femmes et les enfants qui perdent et qu'il faut mettre les femmes et les enfants, enfin les mères et les enfants ensemble. Et c'est là donc la fin de ce chapitre qui est le dernier chapitre de son livre et qu'avec... avec un monde rendu, j'ai oublié les mots, féminin, le monde reverdira. Voilà, c'est ça. The planet will become green again. Voilà.
Je vais compléter parce qu'effectivement, c'est exactement cette intersection des problématiques féministes, écologistes, mais queer aussi. Qui sont à la base de l'écoféminisme, mais sa pensée, en fait, elle est une pensée du pouvoir et du patriarcat, dans laquelle elle considère que la domination des hommes sur les femmes, c'est la matrice de toutes les autres dominations. Que de cette volonté de s'approprier le corps des femmes et de s'approprier la terre comme si elle était inerte, il y a une volonté de pouvoir et une volonté de domination commune qui convergent vers le profit maximum et que cette idéologie sur le profit, elle fonctionne dans l'idée qu'il y a un déni du sensible, il y a un déni des corps. La présence du corps est très grande dans son œuvre en général et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, cette idée-là, que la domination, c'est en tant que de pensée de la domination qu'elle met en cause le patriarcat aboutissant à la fin, la fin de la nature ou de l'environnement pour le profit, pour le pouvoir. Voilà, qu'on peut considérer qu'il est logique et discutable dès lors que la croissance rapporte de l'argent et crée des emplois, de continuer à faire. Ce que l'on voit faire par Total aujourd'hui, que l'on continue à utiliser des pesticides alors qu'on sait, c'est officiel, c'est public, que cela cause des cancers, des maladies auto-immunes partout dans le monde. 80% des terres sont contaminées. C'est une chose à laquelle elle était hypersensible aussi, hein, la conscience qu'elle avait de l'impact de l'agriculture industrielle. Et elle disait aussi que dans la pensée écoféministe, cette idée que la domination des hommes sur les femmes va entraîner la propriété, l'esclavage, la colonisation, toutes ces choses-là découlent d'une organisation hiérarchique de la société, dès lors qu'on considère, qu'on admet, qu'on conditionne à l'idée qu'il y a une catégorie d'individus universels, les femmes, qui est inférieure à une autre catégorie qui sont les hommes, eh bien, ça peut que mal finir. C'est un peu, elle dit, c'est presque logique. Et cette remise en cause, elle est radicale. Je n'en connais pas d'aussi radicale dans l'histoire de la pensée politique. Enfin, il y en a forcément, il y a des prémices. Et elle va me le dire tout de suite. Non, je rigole, mais voilà.
Elle explique très bien comment le patriarcat et le capitalisme ont l'un et l'autre besoin de l'un et l'autre et qu'on ne peut pas enlever l'un sans l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est une question.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'exprime là en 75 à un moment où, grosso modo, tout le monde pense que la révolution va advenir, la révolution de gauche, mais avec cette idée que c'est la lutte de classe qui prime en permanence à l'époque, il faut savoir que le but ultime, c'est la dictature du prolétariat. Ça fait pas envie, la dictature, on est quand même d'accord. Et elle dit, bah oui, ça fait pas, même en Union soviétique, même s'il y a une égalité à l'emploi, à certains postes, etc., le rapport de domination demeure. Et en fait, en embuscade, derrière toutes les propositions politiques qui sont faites, il y a toujours la question de la domination masculine qui est présente et qui est traitée par les politiques comme anecdotique, voire comme une dérive bourgeoise, C'est quelque chose qui va nous faire perdre notre énergie. On doit se dévouer à faire des enfants. Au Parti communiste, c'était quand même un peu l'idée, qui seront des futurs révolutionnaires. Et elle remet totalement en cause ça. Et elles ne sont pas nombreuses à le faire de cette manière-là.
C'est vrai que sur ces questions d'écologie féminisme, c'est hallucinant de lire les textes de 74, enfin des années 70. Et quand on lit, alors pas tout, parce qu'il y a des fois c'est compliqué, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quelques passages qui sont hallucinants. On a l'impression qu'enfin on est 50 ans plus tard, ça pourrait, enfin, si ça sortait aujourd'hui, ça serait novateur en fait. Enfin, on a presque cette impression-là de pas lire de choses aussi radicales des fois dans la presse ou dans les critiques féministes qui peuvent exister. Quand on met les textes ou les écrits de Françoise Dobon en parallèle, ça fait même un peu peur des fois de voir quel point elle a pu être en avance. Et on espère même sur certains points pas trop. On voit un peu le désastre arriver. Et c'est vrai que le discours qu'elle a, qui est assez catastrophiste en 70, on est en plein dedans. Et voilà.
Cette notion de genre qui n'existait pas dans les années 70, en tout cas pas comme il existe aujourd'hui, qu'aurait-elle pensé de ce concept de langage inclusif, vous pensez, Françoise Dobon?
Elle a toujours mis au centre des femmes, des personnages féminins, etc. Donc, bon, après, est-ce qu'elle aurait pensé me faire parler les morts, même s'ils me revisitent dans les rêves? C'est très difficile. Il y a des choses, je m'interroge dans la biographie, comment elle se positionnerait sur certains débats contemporains, sur la question trans, sur la prostitution, sur le voile, ces sujets très clivants, encore très clivants, même si ça, quand même je trouve que ça s'améliore dans le mouvement féministe. Je fais des paris, mais je ne suis pas du tout sûre de moi sur la manière dont elle se serait finalement positionnée. J'ai le sentiment que c'était une libertaire radicale et charnelle qu'elle aurait fait des choix qui privilégient cette notion de liberté. Mais on ne sait jamais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ruth. Tu as l'impression?
Oui, et enfin, par la même occasion, plus je connaissais Dobon et ses écrits, plus je pensais à ce qu'on appelle aussi l'écriture féminine. Et là, j'aurais aimé la voir avec Monique Wittig, par exemple. Je pense que la rencontre aurait été intéressante. Peut-être qu'elle se connaissait, je ne sais pas du tout. Elle se connaissait?
Oui, ah. je pensais justement à intervenir pour rapport à l'écriture, parce qu'en fait, comme moi, je la découvre dans la revue Sorcière. Alors, avec Wittig, je ne suis pas très au fait, mais elle participe à la revue Sorcière, qui est la seule revue qui, dans les années 70, il y a une explosion de la presse féministe. Et la revue Sorcière, c'est la seule qui est spécialisée sur la question de l'écriture et ce qu'on appelle à l'époque l'écriture femme. Et Françoise Dobon va participer à cette revue. Et il y a un vrai travail sur la question de l'écriture au sein même de la revue. Donc, si mes souvenirs sont bons, le numéro 7 s'appelle Écriture, c'est une revue à thème. Et il y a Xavier Gauthier dedans qui vient expliquer que on n'écrit pas de la même manière quand on est une femme que quand on est un homme. Il y a vraiment cette question...
À un moment donné, elle est interviewée à la télé au début des années 60, au tout début des années 60, parce qu'elle était une lectrice dans les maisons d'édition. Donc, elle participait à la sélection des manuscrits qui étaient envoyés. Et elle dit une chose par rapport à l'écriture féminine ou pas féminine. À mon avis, elle avait un point de vue nuancé et complexe, comme très souvent. Elle était radicale, mais très complexe, et elle pensait toujours à la contradiction. Et elle disait... quand je lis un manuscrit, s'il est mauvais, je peux deviner facilement si c'est une femme ou si c'est un homme qui a écrit. S'il est bon, c'est impossible. Je suis obligée d'être... Donc, et elle disait, la médiocrité a un sexe, le génie n'en a pas. Le talent n'a pas de sexe. Je trouve que ça résumerait vraiment bien sa façon d'aborder les choses. Et pour le coup, elle ne le fait pas avec ce qu'elle a aussi pas mal dénoncé chez Simone de Beauvoir, cette idée de neutralité elle ne croit pas à ça. Elle croit à l'incarnation et à la manière dont nous sommes traversés par nos conditionnements. Elle ne pense pas que c'est l'effet de la nature ou que c'est la biologie, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé de nourrir la pensée sur la féminitude, ce que Simone de Beauvoir avait intitulé la féminitude, c'est-à-dire le fait de développer une culture ou des savoir-faire ou des compétences ou des histoires et des narrations dans le cadre de la domination. Voilà, c'est ça ce que je voulais ajouter, parce que ce truc du talent n'a pas de sexe, ça m'avait vraiment plu.
Peut-être qu'on peut, oui, s'il y a des questions dans la salle.
Je voulais savoir combien elle avait eu d'enfants. J'ai entendu qu'elle en avait adopté, mais qu'elle en avait aussi eu par les voies naturelles. Donc, j'aimerais savoir son rapport à la maternité.
Elle a eu, elle a donné naissance à 3 enfants et eu plusieurs interruptions de grossesse. Sa première fille s'appelle Indiana. Elle est née pendant la guerre à la suite d'une relation avec un homme avec lequel elle s'est mariée et qu'elle a décidé de quitter en sortant de la mairie. C'est pendant la guerre. Elle s'était promis de le gifler en sortant de la mairie, finalement elle est juste allée boire un coup avec lui au café, et quand il lui a demandé quand est-ce qu'ils allaient s'installer ensemble, elle lui a dit jamais. Voilà, c'était. Elle avait entre-temps compris ou cru comprendre que c'était un escroc et un malfaisant, et c'était l'éditeur de son premier recueil de poèmes, Les colonnes de l'âme. Donc ça, et Indiana, elle, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle disait, par rapport à la maternité, d'abord qu'elle aurait regretté de ne pas avoir d'enfant, deuxièmement qu'elle avait adoré être enceinte, allaiter et accoucher. Quand elle a accouché de sa première fille, elle raconte dans ses mémoires que la personne qui l'aide, je ne sais plus qui c'est, il y a une sage-femme qui est venue, mais elle a dû plus ou moins accoucher chez elle, parce que le travail s'est fait très bien. Elle était un génie de l'accouchement aussi. Quelque chose qui n'est pas très unanimement partagé. Et la sage-femme ou la personne qui était là, je ne me rappelle plus qui c'est, lui dit « Mais vous pouvez crier, vous savez ?» Et elle dit « Laissez-moi tranquille, vous voyez bien que je travaille. » Et voilà, et elle était concentrée sur son truc. Et ensuite, elle a adoré allaiter aussi. Donc, elle a un attachement à ce qu'elle considère aussi d'une forme d'instinct, même si c'est un instinct dont elle dit qu'il a été perverti par la société pour y enfermer les femmes. Par ailleurs, elle était convaincue de ne pas être douée pour élever des enfants, et c'était une conviction partagée par sa famille qui... Tout le monde était persuadé qu'elle était... Enfin, il y a ce truc quand même, qu'elle était une génie, qu'elle devait se consacrer à la littérature, que rien d'autre n'était possible pour elle. Et ses enfants ont été élevés d'abord par des nourrices, comme ça se faisait à l'époque, puis par sa famille, dans des conditions pas forcément toujours faciles pour ses enfants. Elle a eu un deuxième enfant juste au moment de la parution de son... grand de son best-seller dont je parlais tout à l'heure, Comme un vol de Gerfaut. Et elle avait décidé de faire un avortement clandestin. Elle a réussi à se faire une catholique fervente dans le domaine de l'édition, l'a convaincue de garder l'enfant et de le confier à l'adoption, ce qu'elle a fait. Et ça a été un gros secret de famille pendant longtemps, qui n'a été révélé qu'assez tardivement. Et qui revient dans un de ses romans tardifs où elle imagine une écrivaine, toutes les sirènes sont mortes, dans lequel elle imagine une écrivaine qui reçoit un homme qui enquête et qui pourrait être son fils. Donc il y a quelque chose comme ça qu'il a travaillé pendant longtemps. Et puis en 58, beaucoup plus tard, elle tombe de nouveau enceinte d'un ancien aviateur de l'armée britannique, pilote. Il était pilote. Alors pareil, ça a très mal viré. Il a été violent avec elle. Et elle l'a quitté alors qu'elle était enceinte. Et elle est allée en Suisse pour essayer d'avorter. Et le médecin lui a dit que c'était trop tard. Elle a passé une nuit à marcher le long, c'était à Genève, le long du fleuve, le long du Rhône, en pensant à se suicider. Et en fin de compte, à la fin de la nuit, elle s'est dit, ben, puisque je ne peux pas empêcher cette grossesse, eh bien, je vais en faire une force et une joie. Et elle a fait ça. Elle a adoré son fils, elle a adoré ses enfants, qu'elle n'a pas élevés. Elle n'a pas plus élevé Vincent d'Aubonne, mais elle l'appelait mon petit Hercule Vermeil. Elle adorait cet enfant, mais elle ne l'a pas élevé. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est spectaculaire. Et enfin, effectivement, il y a Alain Le Zongard, alors qu'on appelle son fils adoptif. C'était un projet qu'elle avait de l'adopter, mais elle ne l'a jamais mené à bien. Alain Le Zongard l'a rencontré quand elle a publié son texte dans Charlie Hebdo sur la grève des ventres. Il avait 19 ans, il était homosexuel et il a été enthousiasmé par ce texte et il a écrit à Charlie Hebdo, à Françoise d'Aubonne, qui à sa grande surprise lui a répondu. Et ça a été le début d'une immense amitié qui a duré jusqu'à, avec des hauts et des bas, parce qu'avec Françoise c'est quand même toujours assez des montagnes russes. Mais elle avait ce projet de l'adopter, mais qu'elle n'a pas mené à bien, de la même manière qu'elle avait décidé qu'il serait son biographe, lui qui n'a jamais écrit un livre de sa vie. Donc ça l'angoissait énormément et il avait énormément d'archives, ce qui fait que quand moi j'ai décidé d'écrire sa biographie le 12 mars 2020, alors que l'IMEC était fermé, que je n'avais accès à aucune bibliothèque, que j'ai dû passer ma vie à commander des livres sur Internet pour accéder à son œuvre, j'ai eu la chance extraordinaire qu'il y avait une énorme partie de ces archives qui n'avaient pas été déposées à l'IMEC à l'époque, puisqu'elle les avait données à Alain pour qu'il écrive sa biographie. Et Alain a été extraordinairement généreux, tout comme Vincent. On a passé le confinement ensemble par visio. On mangeait ensemble, on passait des heures dans l'ordinateur. Bon, je vais manger, je vais faire pipi, je reviens, etc. Et on continuait en visio à se parler. Et c'est devenu une histoire, c'est vraiment devenu une biographie très collective, en fait. Et ça faisait partie de ma feuille de route dans le rêve de la réconcilier avec ses enfants. Alors, elle n'était pas fâchée avec ses enfants, mais il y avait des liens qui étaient coupés, il y avait des choses qui s'étaient défaites. Et en travaillant ensemble... Ça a amené ça. Donc, son rapport à la maternité, elle le relie dans un article extraordinaire qu'on trouve facilement sur Internet qui s'appelle « La mère indifférente », dans lequel elle parle de sa propre mère, qui était une scientifique qui était mathématicienne, si je ne me trompe, et qui a été l'élève de Marie Curie. Et c'est bien ça. Hein. Et qui, parce qu'elle a son mariage d'amour avec le père de Françoise, a entraîné l'abandon de sa carrière scientifique, un abandon amer, et le fait qu'elle s'est montrée assez indifférente envers ses enfants. Et c'est en forme d'hommage à sa propre mère qu'elle a décidé elle-même, dit-elle, de devenir d'une certaine façon une mère indifférente. Et un très bon père, néanmoins. Ce qui est certain, c'est que ces enfants, avec les hauts et les bas qu'il peut y avoir dans toute relation entre des parents et des enfants, ne se sont pas sentis abandonnés. Ils disent « maman », il y a beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour dans cette histoire, peut-être autant, sinon plus, que dans des configurations plus classiques.
Au cours des échanges avec le public, la plupart des questions et leurs réponses étaient dites hors micro. C'est pourquoi elles ne figurent pas dans cet enregistrement. Cependant, nous avions à cœur de vous faire entendre cette série de réponses à une question à propos de l'engagement politique de Françoise d'Aubonne.
Sa théorie écoféministe, Françoise d'Aubonne, elle va la peaufiner, enfin vraiment sortir, ça sera un peu plus tard, ça sera 1978, où elle va vraiment sortir écologie, féminisme, révolution ou mutation, qui va être laissé le plus abouti sur la question. Et puis, c'est ce qu'on disait un petit peu, ce qui était trop institutionnel, trop partisan. Elle a été un peu vaccinée après, je pense, son passage au Parti communiste, et je pense qu'elle rêvait un petit peu d'autre chose. Enfin, de toute façon, elle restait jamais très très longtemps dans... dans un même groupe ou enfin voilà.
Elle ne votait pas et elle a soutenu néanmoins la campagne de René Dumont. Hein. Elle fait partie quand elle a fait partie de l'équipe qui a soutenu la campagne de René Dumont. Mais le livre Le féminisme ou la mort est une réponse au livre de René Dumont publié juste avant qui s'appelle L'utopie ou la mort. Et qu'elle jugeait incomplet, c'était sa grande spécialité. Comme le deuxième sexe était incomplet, il fallait faire le complexe de Diane. Et comme l'utopie ou la mort était incomplet et même biaisée, c'est-à-dire qu'elle disait on ne peut pas envisager une utopie qui ne met pas l'égalité au centre, d'où le féminisme ou la mort. Le féminisme comme utopie. Donc elle précise cela. Je crois qu'elle n'est pas très entendue dans les mouvements écologistes de l'époque, qui restent très phallocentrés, qui aussi vont beaucoup dériver à partir de ce moment-là sur un certain essentialisme qu'elle, elle ne défend pas du tout. Et il y a même une branche écoféministe qui va se aller vers une forme de nature souveraine et retour à la nature, etc., etc., qui n'est pas du tout son mouvement à elle. Donc, dire qu'ils ont percolé, de toute façon, aucun parti politique, aucun mouvement politique n'a percolé avec le féminisme, hein, faut quand même être franc. Je reviens d'une semaine au Maroc pour parler d'écoféminisme, d'écologie, etc. À chaque fois, les gens disent « Oui, bon, l'écologie, ok, mais pourquoi vous revenez avec vos histoires de féminisme ?» Bon, ok. Parce que jusqu'à un type qui a fini par me dire « Oui, mais enfin, quand même, la pollution, c'est quand même problématique. C'est les femmes qui utilisent trop de sopalin dans la cuisine. » Donc, là, je me suis dit « On a quand même encore du chemin. Hein. » Mais il était sérieux, le type. J'ai cru que c'était du second degré. Donc, j'ai éclaté de rire. Puis, tout le monde est dedans, mais il était sérieux, en fait, le gars.
Merci beaucoup. Je pensais pas finir sur une blague de sopalin, mais c'est très bien.
Mémodio, une mémoire sonore.